Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer cette conférence qui est consacrée à Walras, un économiste à redécouvrir. Je vais tout d'abord vous présenter les trois conférenciers par ordre alphabétique. Tout d'abord, Pascal Bridel, qui est professeur à l'Université de Lausanne, qui est le fondateur et le directeur du centre Walras-Pareto, et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Walras, et qui va bientôt faire paraître un livre qui traite de l'équilibre général un siècle après Walras. Ensuite, André Orléans. André Orléans, tout le monde le connaît. Et il est directeur de recherche au CNRS, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, il est spécialiste notamment des crises financières, il est l'auteur du pouvoir de la finance, de l'euphorie à la panique, enfin vous avez déjà entendu des conférences d'André Orléans. Et moi-même, Jean-Pierre Potier, donc je suis professeur à l'Université Lumière Lyon 2. Je suis responsable du pôle Histoire de la pensée économique à l'intérieur de mon équipe de recherche qui est pluridisciplinaire, qui s'appelle Triangle. Et je suis un des coéditeurs des œuvres économiques de Walras. Et j'ai un ouvrage en préparation qui s'appelle L'autre Walras. Et j'ajouterai que Pascal Bridel et moi, nous sommes actuellement les co-présidents de l'Association internationale Walras, qui a tenu son colloque récemment, le colloque du centenaire à Lyon en septembre dernier. Voilà, alors je vais tout d'abord donner la parole à Pascal.
Ok, merci beaucoup Jean-Pierre. Bonjour mesdames et messieurs. On m'a demandé de parler de la modernité de Walras ou de Walras comme source d'inspiration théorique aujourd'hui. Et c'est plutôt surprenant à deux égards, parce que tout le monde connaît les difficultés de Walras à faire connaître ses théories à la fin du 19e siècle. Et apparemment aujourd'hui, comme le dit Roger Guenry, Walras est notre grand-père théorique à tous. Et si je vous lis une petite phrase amusante de Walras à l'un de ses correspondants en 1903, il parle de ses travaux et il dit « Si l'on veut récolter à bref délai, il faut planter des carottes et des salades. Et si l'on a l'ambition de planter des chênes, il faut être assez sage pour se dire « Mes arrière-neveux me devront cet ombrage » et Walras de conclure « J'ai pris quant à moi ce parti ». Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui discuter, parce qu'en un quart d'heure, c'est un peu difficile de tout aborder dans la modernité théorique de Walras, c'est, et Jean-Pierre l'a mentionné tout à l'heure, de reprendre quelques éléments du bouquin qui est annoncé. Ce bouquin n'est bien entendu pas de moi, je n'en suis que le modeste éditeur. Et il y a une année, le centenaire de la mort de Walras étant cette année, j'ai écrit un certain nombre de poids lourds de la profession en leur demandant de me faire un papier sur l'importance théorique qu'a joué la théorie de l'équilibre général dans leur développement intellectuel et d'autre part de s'aventurer sur le présent mais surtout le futur du modèle d'équilibre général walrasien. Donc je ne vais pas vous développer la totalité de ce livre qui devrait paraître dans 3 ou 4 mois. Il est maintenant sous toit et le manuscrit est même parti cette semaine chez l'éditeur. Et en fait, ce dont j'aimerais vous entretenir, c'est à travers la lecture de ces contributeurs à ce volume, de parler de la qualité heuristique absolument prodigieuse de ce modèle d'équilibre général walrasien, et pas seulement du modèle d'équilibre, mais ceci, Jean-Pierre vous en parlera tout à l'heure. Alors j'aime bien commencer ce genre de réflexion par cette vieille phrase en philosophie des sciences de Bacon qui dit « La vérité sort plus aisément de l'erreur que de la confusion », et on est très clairement dans une hypothèse ici avec un modèle d'équilibre général en 1874 où aucun économiste ne dira le contraire, ce modèle est entièrement faux par rapport à la, représentation d'une quelconque réalité. Mais le but explicite chez Walras, mais que vous retrouvez dans le bouquin standard d'équilibre général moderne, le Harrow and Hahn de 1971, dans lequel il y a toute une argumentation dont je me suis bien entendu inspiré. Hahn est après tout mon directeur de thèse, où il dit c'est l'écart et non la proximité à la réalité qui rend un modèle théorique utile. Et donc on va s'apercevoir, dans les quelques éléments que je vais vous donner, des quelques extraits des articles proposés par les contributeurs à mon volume, qu'en fait, cette heuristique du modèle d'équilibre général est encore extrêmement vivace chez des théoriciens modernes et pas des moindres. Je vous donne simplement la liste des contributeurs à mon volume et puis ensuite j'en prendrai un ou deux avec un certain nombre d'arguments qui vont dans le sens de ce que je viens de suggérer. Alors, dans ce volume, j'ai William Baumol, David Laidler, Richard Posner, le théoricien de l'analyse économique du droit, Franklin Fisher, qui est le spécialiste de la stabilité, Herbert Scarf, qui est l'inventeur des problèmes d'algorithmes pour remplacer les hypothèses de tâtonnement, Jean-Pascal Benassi, sur les problèmes de modèles à prix fixe, Atkinson, sur les rapports entre la théorie d'équilibre général et les finances publiques, Solow sur le rôle que jouent les DGSE, les équilibres généraux calculables dans la macroéconomie aujourd'hui, Kenneth Arrow qui parle de la structure informationnelle et des problèmes liés à la théorie du crédit dans le cadre d'un équilibre général, Kierman, on est un tout petit peu plus près de la maison ici, Kierman qui pense que Walras nous a mis sur une mauvaise voie théorique. Et puis finalement, à tout seigneur, tout honneur, Roger Guenry qui parle de la modernité de Walras. Alors, j'ai choisi ici de parler des articles les plus théoriques parce que c'est probablement ceux qui sont le plus intéressants, ceux qui sont plutôt s'occupent plutôt de l'histoire du modèle d'équilibre général walrasien ou de Walras, par opposition au modèle moderne Harrow de Breu, je les laisse de côté. C'est un intérêt plus historique que de parler de la modernité de Walras. Alors, si je prends l'article de Franklin Fisher, qui est un des tout grands dans la théorie de la stabilité de l'équilibre général, Fisher est complètement clair et net depuis Mantel, Sonnenschein de Breu. Il dit la recherche d'une stabilité du modèle d'équilibre général au niveau d'une grande généralité théorique est quelque chose qui est complètement sans espoir. Donc on a complètement abonné cette idée-là, mais il est néanmoins aussi totalement convaincu que si l'on n'a pas une idée, une intuition au niveau de la stabilité du modèle théorique sans préjugé de savoir si une économie de marché dans la réalité est stable ou pas, laisse un trou énorme au centre de la théorie microéconomique. Et Fisher, dans son article, offre une revue complète de tous les efforts des théoriciens de l'équilibre général depuis X jusqu'au mécanisme de non-tâtonnement à Mantel, Sonnenschein, de Breu dans les années 70. Et il conclut en disant que supposer que le problème de stabilité n'existe pas, comme c'est le cas dans les anticipations rationnelles ou dans les modèles d'équilibre général calculable, clairement, c'est contourner la question la plus centrale auxquelles tous les économistes se heurtent plutôt tôt que plutôt tard. L'article suivant, la contribution suivante de Scarf, est beaucoup plus technique dans ce bouquin, est une réflexion sur le passage des mécanismes traditionnels de tâtonnement dans les années d'immédiate après-guerre à la démarche en termes d'algorithme. Scarf est un mathématicien venu à l'économie. Et vous avez ici, si vous voulez, cette hypothèse qu'on voit déjà se développer chez Walras à travers ses diverses éditions, que son modèle de tâtonnement, qu'il veut réaliste au départ, se termine par un espèce de petit algorithme de type Gauss-Seidel. Et puis sur cette démarche qui arrive en 1900 dans la quatrième édition de Valras, eh bien Scarf va construire toute sa démarche en termes des algorithmes modernes. Et en plus, dans son article, il fait le lien entre ces algorithmes et ce qu'on utilise aujourd'hui comme algorithme dans les modèles d'équilibre général calculable. Donc on voit ici une continuité assez fabuleuse entre la position de Valras en 1900 et puis ce qu'on fait aujourd'hui en démarche théorique. Le papier suivant, Benassi, tout le monde évidemment connaît la contribution de Benassi. Et ici, en fait, dans ce papier, il retourne et fait une réflexion sur sa démarche théorique de toute sa carrière scientifique, où, comme il le dit très clairement, j'essaye de marier Valras 1874 avec Keynes 1936 et Chamberlain 1933. On voit bien l'hypothèse d'une approche macroéconomique dans un cadre d'équilibre général avec de la concurrence imparfaite. Atkinson, le grand théoricien des finances publiques, celui qui a écrit les Lectures on Public Economics avec Stiglitz, fait des ponts étonnants sur les rapports, revenant sur sa formation comme économiste en termes d'équilibre général. Il parle de l'importance centrale du modèle à deux secteurs dans la théorie du développement et dans la théorie de la croissance, et il fait les liens avec l'équilibre général comme un go-between, comme il dit, un marieur, si vous voulez, entre la théorie du commerce international, d'où Atkinson vient, pour aboutir aux finances publiques. Et il a une conclusion méthodologique dans cette discussion, qui est assez longue, dans laquelle il affirme que dans le monde réel, les problèmes avec lesquels les politiciens, les spécialistes de politique économique doivent se coltiner, si vous me passez l'expression, sont précisément ceux qui nous font douter qu'une hypothèse d'équilibre général concurrentiel peut être soutenable. Donc on est bien dans une hypothèse que vous avez un modèle abstrait qui vous sert heuristiquement à tenter de comprendre une réalité extrêmement complexe. L'article Darrow, évidemment, le modèle Darrow de Breu, on est dans une situation où vous avez l'un des créateurs de la formalisation moderne de l'équilibre général, est un article où Darrow, bien entendu, se penche sur les problèmes de la structure de l'information nécessaire pour mettre en œuvre les échanges qui sont simplement définis en statique dans le modèle d'équilibre général. Et il a un modèle extrêmement intéressant à deux périodes, extrêmement simple, mais qui permet de montrer l'effondrement de la structure de l'équilibre général, parce qu'il y a des défauts d'information évidents lorsque vous introduisez simplement, avec beaucoup de guillemets, le problème d'un marché des capitaux extrêmement simple, même simplement des bonds, il parle également du problème traditionnel des faillites, la faillite ne peut pas être gérée dans une structure d'équilibre général, et la conclusion plutôt amusante pour un théoricien d'équilibre général, c'est que la seule solution de s'en sortir, c'est d'introduire des institutions dans le mécanisme de fonctionnement de l'équilibre général. Solow, quant à lui, concentre l'essentiel de son article, mais ce n'est pas nouveau, mais c'est très utile que Solow soit fait toujours et encore, surtout par Solow, avec sa hauteur théorique. S'acharne sur les modèles d'équilibre général calculable, ou en d'autres termes, il dit, je cite, « On ne peut pas imaginer qu'il y ait une relation linéaire, straightforward mapping, de Valras à la macroéconomie. » Et ce qu'il reproche aux équilibres généraux calculables, qui sont un lointain descendant de Valras, c'est l'idée de revendiquer d'être le seul modèle macroéconomique utilisable aujourd'hui, alors que Solow conclut que l'absence d'une notion de déséquilibre dans les modèles d'équilibre général calculable est mortelle, mais que, dit-il, une fois encore, je le cite, les différents usages de l'équilibre général doivent être conçus d'une manière heuristique et informelle. On a de nouveau cette idée qu'on a un instrument, mais oublier l'idée que l'instrument est la représentation de la réalité. Encore deux articles, trois. Kirman, lui, pense que la théorie économique a pris fausse route depuis la résurrection de l'équilibre général avec Samuelson en 1938-39, et que, essentiellement, cet amour des théoriciens de l'équilibre général pour la cohérence interne leur a fait oublier la cohérence externe du modèle, et la grande critique de Kirman, dont la réponse se trouve partiellement chez Arrow, c'est qu'il n'y a aucune structure institutionnelle vraiment cohérente dans les modèles même récents d'équilibre général. Et puis finalement, la contribution de Roger Guenry va dans un sens un peu différent. Il se pose la question de savoir de quelle manière peut-on se convaincre ou constater que, comme il le dit avec beaucoup d'humour, Walras's soul is marching on, ou en d'autres termes, que l'âme de Walras, on ne savait pas qu'il en avait une, mais que l'âme de Walras, pour un équilibre général, c'est la place de l'âme dans l'équilibre général est un problème probablement théoriquement intéressant, mais de se poser la question, quel est l'avenir de la théorie de l'équilibre général aujourd'hui dans le cadre des recherches théoriques. Alors, il y a une première direction de recherche en termes d'un réexamen du fameux tâtonnement, qui est le problème central de la stabilité chez Walras, et on n'est pas très loin de Lyon ici, puisqu'il reprend une direction de recherche et suggère une direction de recherche en direction d'une équilibration, pour utiliser la terminologie de Pérou. Et puis, vous avez un programme de recherche extrêmement ambitieux qui sont dans la tradition de l'héritage walrasien. D'abord, réfléchir au prix des biens. Comme dans les nouveaux modèles keynésiens, on va avoir une hypothèse de prix déterminée par un markup. Vous avez le problème des variations des prix des facteurs de production, notamment dans le marché du travail. Ici, la suggestion est de partir dans des hypothèses de modèles de non-tâtonnement comme on les a connus dans les années 70 et 80. Et puis, surtout, et là je pense qu'il faut souhaiter bonne chance à ces théoriciens-là, c'est l'idée que les anticipations ne peuvent plus être considérées comme axiomatiquement rationnelles et qu'il nous faut une théorie de la construction des anticipations par les agents. Donc je vous ai donné ici dans un quart d'heure, c'est un peu quadrature du cercle, un bref aperçu de ce que vous devriez pouvoir trouver dans ce volume. Volontairement, je l'ai fait avec des termes non techniques. Certains de ces articles sont extrêmement précis, clairs et sont faits par des professionnels de la discipline. Mais on voit encore que Walras est clairement, comme le dit Roger Guenry, le grand-père intellectuel de beaucoup d'économistes contemporains, et que même les gens de Chicago, même des gens comme Friedman, ont quelque part, comme il le disait, nous marchons avec Marshall, mais nous valsons avec Walras. Merci de votre aimable attention.
Je donne maintenant la parole à André Orléans.
Merci. Bonjour. Donc, ma position ici est un peu particulière dans la mesure où je ne suis pas, comme mes deux collègues, un éminent spécialiste de Walras, mais je suis néanmoins très heureux d'être ici. En fait, le comité scientifique de ces journées d'économie avait retenu l'idée qu'il devait avoir une séance, que c'était bon d'avoir une séance qui soit consacrée à un auteur lors de ces journées. Et donc, c'est la troisième année, et donc c'est le troisième auteur. Et les années précédentes, on a commencé par Keynes, il y a eu Marx, et aujourd'hui, il y a Walras. Et je suis au fond assez heureux de cette trilogie Keynes, Marx, Walras, et je suis heureux pour cela de participer à cette réunion, car je pense qu'il y a en effet, pour les économistes, il y a une portée éminente de l'œuvre de Walras, de ce qu'il a fait, et que tout économiste est confronté à ce legs et à cette théorie, et qu'elle paraît essentielle. Et donc, ce que je voulais ici discuter, c'était un peu mon rapport avec Valras et permettant d'introduire certains thèmes généraux. D'abord, le premier point qui me paraît intéressant et pourquoi j'apprécie l'œuvre de Valras comme tout le monde, c'est que c'est quand même la seule représentation, me semble-t-il, que l'économie est produite encore aujourd'hui de l'économie en général, de l'ensemble des marchés et de leur interaction. Donc il y a chez Valras quelque chose et quand je parle d'ailleurs de Valras, puisque comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste de Valras, souvent je fais l'amalgame entre Valras et l'équilibre général tel qu'il s'est construit, essayant d'intégrer l'ensemble de cette tradition, et souvent je ne parlerai pas spécifiquement de Valras, mais plus généralement de l'équilibre général. Donc l'équilibre général reste un achèvement très profond parce qu'il représente une économie dans sa totalité. Et donc c'est une pensée forte qui essaye de comprendre comment une économie de marché, dans sa totalité, concurrentielle, peut fonctionner. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que c'est si puissant et qu'on ne cesse d'y réfléchir, parce que c'est lui qui a mis les bases d'une certaine manière de résoudre ce problème qui est vraiment le problème de l'économie. Le problème de l'économie, c'est comment se fait-il que des acteurs, des millions d'acteurs qui prennent des décisions dans tous les coins, conformément uniquement à leur intérêt privé, peuvent aboutir à quelque chose qui soit autre chose que de l'anarchie, et que ça conduise à quelque chose qui soit comme un ordre marchand. Et donc Valras nous donne une réponse à cette question, qui est certainement la question fondamentale de la théorie économique. Comment se fait-il qu'il y ait de l'ordre plutôt que du néant ? Comment il le fait ? Alors il y a deux points qui me paraissent sur lesquels je voudrais qu'on réfléchisse ici. Le premier point, c'est sa rupture, comme chacun sait, avec la tradition classique. Valras arrive à un moment, ce qu'on appelle la révolution marginaliste, donc il rompt assez radicalement les conceptions des classiques, hein, c'est-à-dire Smith, Ricardo et les gens qui le précèdent au XVIIIe et au XIXe siècle. Et au fond, je dirais que la chose intéressante dans cette révolution marginaliste, c'est que dans la pensée antérieure, la question de la production et du travail était la question essentielle, et donc l'économie était vue à travers la valeur travail, à travers le travail, et on pensait que la valeur des biens renvoyait à leur production. Chez Valras, les choses, et comme chez les marginalistes, est totalement transformée. Le rapport fondamental n'est plus un rapport de production, c'est un rapport d'échange. La question essentielle chez Valras et dans la pensée néoclassique, c'est plus tellement la production que comment on répartit les biens. Donc le rapport fondamental dans la pensée, dans cette forme de pensée valracienne, c'est ce rapport au bien. Donc au départ, ce qui est le rapport premier, c'est le rapport au bien, qui est un rapport donc d'utilité des acteurs au bien, et la question se pose de comment, quand on est dans ce rapport au bien, quand on met N agents avec M biens, comment est-ce qu'on les répartit ? C'est ça la question très spécifique que pose Valras. Évidemment, on a pu le critiquer en disant que du côté de la production, même, enfin, critiquer l'équilibre général parce que Valras lui en parle, mais du côté de l'équilibre général, de dire la production avait d'une certaine manière disparu, on peut le dire de cette manière-là, c'est-à-dire la production est intégrée, mais à la manière d'une contrainte technique. Le problème social, le problème de coordination, c'est le partage des biens. La production est un peu annexe dans l'équilibre général. Certes, et on peut dire que c'est d'une certaine manière une limite, mais cette question du rapport au bien paraît être une question, c'est pas un fantasme valracien, c'est une réalité de nos économies, de mettre en avant ce rapport au bien et ce rapport aux objets, et savoir comment on constitue une société par rapport à ce rapport aux objets. Donc je trouve donc intéressant chez Valras cette mise en avant de ce rapport aux objets et du rapport d'utilité. Et donc d'arriver à construire comment ces rapports aux objets se déterminent par rapport à la concurrence. On peut faire, je ferai juste ici une critique qui est plutôt externe qu'interne, c'est de dire que c'est une bonne description de la société marchande, à ceci près que l'idée est quand même que l'utilité, le rapport au bien précède l'échange, et il est extérieur à la sphère des échanges. C'est-à-dire que ce que pense le monde valracien, c'est des objets sur lesquels vous avez déjà une utilité, c'est-à-dire vous savez ce que vous en voulez en faire, les acteurs savent ce qu'ils veulent en faire, et ensuite on se les partage. Et évidemment, il échappe à cette construction une autre dimension de la société marchande qui est pourtant très importante, c'est le fait que l'échange produit les besoins. Comme vous le savez bien, c'est bien le mouvement de l'histoire du capitalisme, c'est un mouvement d'invention d'objets et d'invention d'utilité. Et on peut dire que, d'une certaine manière, si on essaye de saisir la dynamique du capitalisme, cette dynamique des objets produits et des nouvelles utilités qui sont liées, des nouveaux besoins, la création de nouveaux besoins, le fait, au fond, qu'il n'y ait qu'une rareté qui se reproduise constamment, qu'il n'y ait jamais de satisfaction, mais que constamment de nouveaux objets, de nouvelles utilités, de nouveaux besoins sont produits, est une dimension qui est importante dans la réalité des économies marchandes, mais qui échappe au cadre valracien, parce que dans le cadre valracien, l'utilité précède les objets. Donc la question, c'est des acteurs qui ont un certain nombre de conceptions et de besoins donnés, comment ils se partagent ces objets? C'est ça la question valracienne, et pas la question de savoir comment ces utilités vont varier suite à certaines modifications. Donc il y a là, ici, une force dans le monde, dans la pensée valracienne, c'est qu'il résout ce problème qui est très compliqué et que personne n'avait vraiment résolu avant lui, mais il y a une limite dans sa description de la société marchande. Et moi, mon point de vue, ce serait ça, c'est de considérer que Valras et l'équipe générale est intéressant, mais en délimitant une partie du problème, pas l'ensemble du problème du capitalisme. Le deuxième point, c'est cette nature extrêmement particulière de la construction valracienne. C'est ce côté, comme ça a déjà été dit, ce côté mathématique, a priori, de la réflexion. Je crois qu'il y a là, une réflexion qui doit continuer à être menée sur la nature de l'abstraction valracienne. Il me semble, lui-même en est très conscient, de cette idée qu'il n'est pas, il dit, je vais vous citer un fameux passage, qu'il n'est pas dans de la méthode expérimentale, et ça c'est assez troublant pour nous. Il n'est pas donc dans le sens d'une science naturelle classique où on étudie la réalité, il y a un travail d'abstraction spécifique. Je vous lis une citation qui est dans la troisième leçon, qui est très connue. Il parle de sa méthode et il la définit comme science physico-mathématique, ou des fois il parle de sa méthode comme la méthode mathématique. Cette méthode, vous savez, chez Valras, il construit des offres et des demandes, et il traite mathématiquement l'économie, c'est son immense force, c'est le premier qui fait ça. Donc là, il dit, la méthode mathématique n'est pas la méthode expérimentale. Donc on voit bien qu'il est conscient que le rapport au réel de ce qu'il produit, c'est pas sur le mode de la méthode expérimentale. Ce qui me paraît plus difficile, c'est de le qualifier. Ce que je voudrais essayer de faire tout de suite. La méthode mathématique n'est pas la méthode expérimentale, c'est la méthode rationnelle. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode? Elle abstrait des types réels, des types idéaux, donc à partir des types réels, marché, etc., elle abstrait des types idéaux qu'elle définit, et sur la base de ces définitions, elle bâtit a priori tout l'échafaudage des théorèmes et de leurs démonstrations. Autre citation, « Pour observer cette méthode, l'économie politique pure doit emprunter à l'expérience des types d'échanges, d'offres, de demandes, de marchés, de capitaux, de revenus, de services producteurs, de produits. De ces types réels, elle doit abstraire par définition des types idéaux et raisonner sur ces derniers pour ne revenir à la réalité que la science une fois faite et en vue des applications. » Nous aurons ainsi sur un marché idéal des prix idéaux qui seront dans un rapport rigoureux avec une demande et une offre idéale. Donc il y a quelque chose qui me paraît clair et je crois qu'on peut concevoir, donc c'est un gros problème de la nature de cette abstraction par rapport à la réalité, c'est tout un débat tout à fait récurrent par rapport à ce qu'est l'économie. Et je crois que les mots, moi je prendrais les mots de Valras en les prenant au sérieux, c'est cette idée de type idéal. Il me semble qu'on est tout à fait dans un cadre de ce que Weber, Max Weber, le grand sociologue allemand, économiste et sociologue, a défini comme la méthode idéale typique. Il dit d'une méthode idéale typique, c'est quoi? C'est d'essayer de penser une logique, et donc pour penser une logique, dit-il, il faut se focaliser sur cette logique et laisser ce qui ne lui appartient pas à l'extérieur. Et donc on construit un modèle idéal typique au sens où elle se donne pour but de penser une logique, disons dans notre cas la logique concurrentielle, en abandonnant tout ce qui est la réalité. Et donc on comprend bien tout ce qui est autre part dans la réalité. Donc c'est une manière de concevoir, c'est au fond une manière très conceptuelle, c'est une espèce de concept de concurrence, en l'occurrence, qui est pensé dans l'idéal type. Évidemment, le rapport au réel est très compliqué. Je pense qu'on peut soutenir au fond que la métaphore, il y a deux rapports au réel, on peut dire. Il y a le rapport au réel, par exemple, qu'on trouve en physique, ça me paraît être un bon exemple, entre le gaz parfait et les gaz réels. Donc il y a un modèle de gaz parfait et on tire les lois de la thermodynamique à partir de ce modèle de gaz parfait, et le gaz parfait est une bonne approximation des gaz réels, donc la manière dont leur masse, leur volume et leur pression fonctionnent. Je pense que ça, c'est très profondément la méthode expérimentale et comme ça qu'on fonctionne. Et il me semble, ce serait une conjecture, que Walras n'est pas dans ce cadre-là. C'est-à-dire que le modèle walrasien n'est pas dans un rapport au réel de la nature du gaz parfait par rapport au gaz réel. Il est dans une construction conceptuelle d'un objet. Et c'est tout à fait différent. Et donc, il me semble que de ce point de vue-là, on est conduit à il y a une normativité en quelque sorte implicite dans le modèle walrasien. Alors, certains l'ont dit, en particulier par le fait. Par le fait que vous savez qu'un des éléments de cette construction walrasienne importante, c'est que les acteurs, le marché est représenté de manière assez particulière chez Walras. Ce n'est pas un marché où les gens se rencontrent et échangent des produits, c'est un marché qui est centralisé autour d'un crieur de prix. Et il a pris l'exemple des marchés financiers. Donc c'est une construction très hiérarchisée que celle de la concurrence walrasienne. Et d'ailleurs, certains l'ont critiqué en disant que ça manquait de réalité par rapport aux marchés qui sont réellement décentralisés. Mais il me semble que si on reprend l'idée, c'est qu'au fond, dans cette construction, il y a une certaine volonté de respecter en quelque sorte la liberté intellectuelle, la liberté individuelle, d'imaginer un dispositif dans lequel les décisions individuelles, les acteurs se rencontrent jamais, ne s'influencent jamais. On est dans un monde en quelque sorte qui respecte l'égalité et la liberté des acteurs dans leurs choix. J'aurais tendance à dire dans mes termes, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur les questions du mimétisme, que c'est une construction entièrement anti-mimétique. Les acteurs ne se comparent jamais, ils se comparent pas, ils se rencontrent pas, ils se parlent pas, ils sont pas dans ce mode d'influence. Donc il y a une construction ici très particulière chez Walras à partir du crieur où les acteurs sont séparés. Mais cette dimension, évidemment, elle peut être mise à son débit comme n'exprimant pas la réalité, mais aussi on peut y voir l'idée d'une construction qui respecte en quelque sorte la décision individuelle et la liberté individuelle et essaye de penser un ordre, un modèle de justice, comme le dit un fameux lecteur de Walras. Donc la construction walrasienne, elle est à la fois, je dirais, elle est à la fois de la nature de l'idéal typique, et elle est aussi de cette nature d'une expression, d'une normativité. Ceux qui connaissent mieux que moi Walras me diront si je délire ou pas, mais d'une espèce de modèle de justice, d'une organisation, de pensée d'une organisation sociale particulière. Et en même temps, me semble-t-il, elle décrit quelque chose qui est dans la réalité du monde marchand, qui est cette dimension du rapport aux objets et la question du rapport aux objets. Donc elle a ici un grand spectre. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de mon... Donc il y a cette question, et évidemment ça pose, et je finis là, ça pose la question du rapport au réel. Et d'ailleurs il le dit dans ce texte-là, il le pense souvent en termes d'application. Alors peut-être je sollicite trop le texte, mais on voit qu'il y a une tendance, en effet, de l'économie, ce qu'on appelle son côté performatif, c'est-à-dire que, étant donné qu'elle a une espèce de modèle abstrait pur, il y a une tendance des économistes à l'appliquer au monde réel. C'est-à-dire il y a des marchés valracien, mais ils n'étaient pas dans la nature, ils ont été un produit de l'histoire de l'économie qui a produit des marchés valracien à partir du concept valracien. Et donc il y a un mode de rapport au réel de l'idéal type, vous voyez, qui n'est pas sur le mode de la méthode expérimentale, mais qui est sur le mode de la performativité, naturellement, puisque c'est ça, ce concept de normativité. Et donc on conçoit bien qu'il y a une certaine démarche de ce type-là. Et pour finir vraiment cette fois-ci, je signale que Weber lui-même était tout à fait conscient de ça, et que il avait souligné que le problème de la méthode idéale typique était précisément qu'elle conduisait assez naturellement les théoriciens à vouloir faire de leur idéal conceptuel, qui était un idéal de la pensée pour saisir un concept, d'en faire un idéal de la société lui-même. Et donc c'est ce qu'il appelait la confusion des problèmes, parce qu'à son sens, c'était là tout à fait problématique de vouloir ainsi projeter des concepts sur la réalité. Mais c'est dans la nature de l'objet. Merci.
Bien, alors je vais me donner la parole. J'avais prévu de parler plus longtemps, mais je vais me rédimer quand même. Alors, on vient de parler de normativité chez Valras, et ben je vais être en plein dedans dans mon intervention. En effet, Valras pense que le but final de la science, en ce qui concerne le projet scientifique global, il pense que le but final de la science, c'est de rapprocher la réalité d'un certain idéal. Et Valras prétend formuler un idéal social à la fois de justice, mais aussi d'efficacité économique. Et dans cette direction, eh bien, il souhaite résoudre scientifiquement, dit-il, la question sociale. Et il va justement se proclamer toute sa vie socialiste libéral. Donc je vais, m'attacher quelques minutes là-dessus. Valras, en effet, propose une sorte de synthèse entre le socialisme et le libéralisme, entre l'individualisme et le communisme. En somme, ce qu'il appelle aussi, de temps en temps, un socialisme de la synthèse, un socialisme synthétique. Alors évidemment, Valras n'est pas du tout le premier ni le dernier à utiliser cette formule de socialisme libéral, mais je dirais qu'il insiste beaucoup sur cette expression de socialisme scientifique. Et ça va peut-être vous étonner, celui qui utilise le plus souvent l'expression de socialisme scientifique, c'est pas du tout Marx et Engels, c'est totalement faux, c'est Valras. Toute sa vie, Valras a répété inlassablement qu'il se plaçait du point de vue du socialisme scientifique, en critiquant à la fois les économistes libéraux orthodoxes de son temps et en critiquant aussi les socialistes de son temps. Alors, Valras s'est attaché à des réformes sociales qu'il souhaitait promouvoir. Alors, je vais les passer en revue. Première réforme sociale, la question du rachat des terres par l'État. C'est-à-dire, le rachat des terres par l'État, dans l'œuvre de Valras, c'est quelque chose qui apparaît en économie sociale, qui a un sens très particulier chez Valras. C'est pas du tout l'économie sociale et solidaire. C'est la théorie de la propriété et de l'impôt. Et Valras, eh bien, contrairement à ce que pensent, d'après lui, les économistes libéraux, orthodoxes, ceux qu'il appelle les utilitaires aussi, eh bien, on ne peut pas attribuer tous les droits de propriété aux individus. Parce qu'il faut faire aussi une place à l'État. C'est-à-dire, chez Valras, individus et État sont ce qu'il appelle deux types idéaux sociaux. On parlait tout à l'heure, André parlait tout à l'heure des types idéaux, eh bien, il existe aussi chez Valras des types idéaux sociaux, et l'individu et l'État sont sur le même plan, ils sont équivalents. Et Valras, dans cette direction, va proposer une théorie de la justice sociale assez particulière. Il affirme que chaque homme possède son propre capital humain, bien sûr, ses facultés personnelles, pour utiliser les termes de Valras. Et alors, pour respecter l'inégalité des positions personnelles, eh bien ce capital humain, mais aussi les revenus du travail dans leur intégralité, les revenus du travail dans leur intégralité appartiennent de droit naturel à l'individu. En revanche, d'après Valras, eh bien les hommes doivent posséder en commun ce que la nature a donné à tous, c'est-à-dire la terre, vous voyez, les ressources naturelles. Et donc il faut respecter, d'après Valras, l'égalité des conditions sociales. Et à ce moment-là, les terres et puis les fermages qui en découlent appartiennent de droit naturel, non pas à des propriétaires fonciers privés, mais, dit-il, à l'humanité. Or, le représentant légitime de l'humanité, ça ne peut être que l'État, l'État, la communauté. Et ça, c'est encore une question de justice, même de justice commutative, en l'occurrence, une forme de justice commutative. Alors évidemment, au XIXe siècle, vous le savez bien, la question de la rente, la question de la terre a été fortement agitée chez les économistes de tout genre, chez les socialistes. Et Valras s'est donc rallié à l'option nationalisation du sol. Mais attention, pas question d'exproprier brutalement les propriétaires qui ont acheté leur terre. Non, l'État doit racheter systématiquement, progressivement, les terres au prix du marché. Pas en dessous, au prix du marché. On ne peut pas payer cash, évidemment. Il va emprunter massivement et on va indemniser les propriétaires avec des obligations. Au final, l'État deviendrait le propriétaire foncier collectif et louerait à long terme les terrains aux particuliers, aux entrepreneurs. Alors attention, les terres agricoles, mais aussi les terrains urbains, contre des fermages, contre des loyers. Et Valras a même, en 1879, construit une théorie mathématique du prix des terres et de leur achat par l'État. Valras était persuadé que, bien sûr, l'endettement de l'État allait s'accroître, c'est sûr, mais dans une société en croissance, eh bien, il pense que le prix des terres augmente, les fermages augmentent, ces hausses devraient s'accélérer au cours du temps, et puis par ailleurs, avec l'abondance du capital, il pense que le taux d'intérêt devrait diminuer et qu'à très long terme, eh bien, l'amortissement de la dette publique serait possible. Alors ça, ce serait donc pour Valras, cette question du rachat des terres, disons, la solution d'une première question sociale, en somme. Et je dirais que Valras pose ici un problème plus général de la propriété des ressources naturelles. Vous voyez, par exemple, Maurice Allais, dans son traité d'économie pure, dans les différentes éditions de cet ouvrage, il s'est beaucoup intéressé à cette théorie. Alors, il dit, à propos des pays neufs, ce serait pas mal, effectivement, les propriétaires fonciers s'enrichissent avec la hausse du prix des terrains, de la rente. Il évoque comme une possibilité la nationalisation du sol. Alors, autre aspect qui va nous conduire à une deuxième réforme sociale, c'est la question des exceptions au principe de la libre concurrence. Alors là, nous ne sommes plus en économie sociale, nous sommes cette fois en économie appliquée, c'est-à-dire qu'on s'intéresse surtout au problème de l'application du principe de la libre concurrence et de ses exceptions, des exceptions au principe de la libre concurrence. Et le critère n'est plus la justice, comme en économie sociale, le critère, c'est l'efficacité économique, ce que Valras appelle intérêt, le critère de l'intérêt dans ses écrits. Valras, vous savez, avait très peur que les lecteurs des éléments d'économie pure le prennent pour un partisan du laisser-faire, laisser-passer. Il avait très très peur puisqu'il dit dans une lettre que c'est plutôt le désir de repousser les applications mal fondées, inintelligibles de la libre concurrence faites par des économistes orthodoxes qui l'a conduit à l'étude de l'application de ce principe de libre concurrence. Et pour lui, il faut favoriser les effets bénéfiques la libre concurrence, mais attention, c'est comme pour le soleil, il faut se protéger des coups de soleil, mais il faut se protéger des effets nuisibles de la libre concurrence. Et là où on peut faire fonctionner la libre concurrence, quel peut être le rôle de l'État? Bien, c'est de veiller à ce que la libre concurrence fonctionne bien, c'est-à-dire assurer aussi les conditions, le milieu de fonctionnement de la libre concurrence. Il faut poser les règles du jeu. Hein. On ne peut pas s'installer médecin, avocat, sans diplôme, sans règles, etc. Pour Valras, il faut une réglementation très précise, très stricte. Hein. En revanche, vous avez des domaines, pour Valras, où justement la libre concurrence ne peut pas agir et c'est l'État qui doit intervenir. Alors, quels sont ces domaines rapidement, eh bien, il y a les services publics, il y a les monopoles naturels et il y a la question fameuse des chemins de fer. Alors, je vais dire quelques mots brièvement sur ces différents aspects. Alors, d'abord, concernant les services publics, au sens ancien du terme, bien sûr, c'est les fonctions régaliennes de l'État, l'administration, la justice, la défense nationale, vous voyez, l'éducation publique. Valras est attaché au caractère public de l'instruction secondaire, supérieure, la recherche scientifique également, c'est important. L'État doit s'occuper, bien sûr, de construire les grands travaux d'infrastructure, naturellement. Donc là, on a affaire à ce qu'il appelle même des monopoles moraux, finalement, tous ces services publics. Parce que de droit naturel, l'État doit les assurer, parce que les services publics, ça correspond à des besoins collectifs, qui sont égaux pour tous les individus. Les individus ne peuvent pas percevoir même l'utilité de tous ces services publics. Et puis, il y a aussi des services dont l'utilité sociale dépasse même les utilités qui peuvent être ressenties par les individus. Donc ça, c'est important. Alors, concernant l'intervention de l'État en matière de monopole naturel et de chemin de fer, là, Valras ne se réclame pas du droit naturel, il se réclame de l'efficacité économique. Alors, sur les monopoles naturels privés, bon, il évoque bien sûr les mines, l'eau, le gaz, etc. Donc, des activités qui sont bien connues parce que, bon, elles sont caractérisées par des coûts fixes très élevés, par des rendements d'échelle croissants. Et pour Valras, s'il y avait plusieurs entreprises, eh bien, la concurrence acharnée qui va s'engager entre elles conduirait à leur disparition. Et finalement, on aura un monopole privé qui, évidemment, va pratiquer ce qu'il appelle une politique de bénéfice maximum au détriment des consommateurs, des discriminations tarifaires aussi, etc. Bon, le troisième aspect, les chemins de fer. Alors, sur les chemins de fer, la particularité pour Valras, c'est que ce sont à la fois des services publics et des monopoles naturels. Les chemins de fer sont des services publics, pourquoi ? Parce que ça sert à transporter l'armée, les troupes, la police, et vous-même, si vous venez assister à des colloques scientifiques. Ici, les chemins de fer ont joué un rôle de service public pour Valras. Donc c'est en partie des services publics, en partie monopole naturel, et je dirais que Valras c'est intéressant parce que c'est un des premiers économistes qui s'intéresse au plan théorique à la séparation entre l'infrastructure, le réseau ferré en somme, et le service du transport, et il pense que dans les deux cas il s'agit bien de monopole naturel, c'est-à-dire que on peut pas, s'il y a de multiples réseaux, c'est un gaspillage de ressources. L'État ne peut pas autoriser plusieurs sociétés à exproprier des terrains. Et d'après lui, on ne peut pas autoriser plusieurs compagnies de chemin de fer à circuler sur la voie ferrée. Sinon, on va retrouver la marche au monopole. Donc on a là, pour Valras, une véritable question sociale qu'il faut résoudre. Comme la première, c'est un problème d'initiative collective. Alors, pour les monopoles naturels et les chemins de fer, pour Valras, eh bien, bon, ils discutent. Est-ce qu'il faut une entreprise privée, d'accord, mais qui serait concessionnaire du monopole naturel, mais avec un cahier des charges très précis, qui serait contrôlé par l'État, qui serait surveillé par l'État, ou bien l'option rachat par l'État, c'est-à-dire nationalisation des chemins de fer. Bon, Valras a évolué au cours du temps, et c'est vrai que dans les années 1890, il était plutôt favorable au rachat par l'État des chemins de fer, et bon, avec une tarification qui, au niveau consolidé, les tarifs devraient couvrir ce qu'il appelle le prix de revient en service producteur. Alors, dans un article du Monde, Jean-Jacques Lafont disait que Valras avait fourni les fondements, finalement, de la doctrine française des services publics qui avaient prévalu depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 1980. Vous savez que cette doctrine a été remise en cause plus tard avec la séparation entre l'infrastructure ferroviaire et les services de transport. Et puis, bon, cette année, vous avez entendu parler de la libéralisation du trafic international des voyageurs. Hein. Alors, bien sûr, hein, pour finir, parce que j'arrive à la fin, le socialiste libéral de Valras n'admet pas l'État-providence, hein, n'admet pas l'État-assureur social, hein, l'État-nourrice, comme il dit, n'aime pas l'État-nourrice. Il critique les politiques sociales allemandes de Bismarck, etc. Mais l'État doit instaurer des limites, par exemple à la durée du travail, hein, doit s'occuper de conditions de travail. Et Valras a peur du dumping social. Hein, il dit qu'il faudrait une entente internationale pour résoudre les problèmes de réglementation du travail. Il est favorable aux syndicats. Il a l'image des trade unions en tête, bien entendu. Il pense que l'État devrait améliorer le fonctionnement du marché du travail, faire circuler l'information, etc. Valras est un partisan de la coopération, hein, des coopératives de crédit, de production, ça c'est important. Hein. On a dit qu'il était un des pionniers de l'autogestion. Hein. Pourquoi est-ce qu'il défend les coopérations ? Ben, c'est un moyen de... disons, de susciter l'épargne populaire, salariale, hein, c'est important. Je dirais aussi que Valras a été un pionnier dans la réflexion sur le socialisme de marché. Hein. Il s'est beaucoup intéressé au collectivisme de la production, hein, il était prêt à discuter avec les marxistes hein, dans les années 1895-1898. Hein. Et finalement, bon, il était très, très ouvert au dialogue, bien entendu. Alors vous imaginez qu'avec toutes ces positions assez, assez curieuses, qu'en matière de rachat des terres par l'État, de prise en charge par l'État des monopoles naturels, des chemins de fer, ses idées sur le collectivisme de la production, évidemment, ça l'a conduit toute sa vie à combattre les économistes libéraux orthodoxes, les socialistes de son temps, de tous bords. Et évidemment, en France, bah, il n'a pas eu beaucoup de disciples hein, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, je ne vais pas prolonger plus longtemps. Merci de votre attention.